Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat comme tous les soirs sur France Culture du lundi au vendredi entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, Saint-Valentin, où peut-on encore se rencontrer? La fermeture des cafés, celle des boîtes de nuit, tout comme la volonté des élus et des institutions de créer, là où il n'y en a plus, des tiers-lieux, comme on les appelle, pour pallier l'isolement dans certaines régions, interroge sur la disparition des endroits traditionnels de la rencontre. En parallèle, la multiplication des sites du même nom rend plus complexe encore des paradigmes anciens étudiant l'homogamie, même classe, même milieu social, même ville ou même village, comme base de la rencontre amoureuse. Nous allons en parler avec quatre invités. Luc Gwiazinski, qui est géographe, maître de conférence à l'université Grenoble-Rhône-Alpes, membre du laboratoire Pacte et auteur de deux livres, La nuit, dernière frontière de la ville et de La ville 24 heures sur 24. Il sera en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu Isère. Yaël Amselem Mingui, qui est sociologue, chargée de recherche à l'Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire et autrice des Filles du Coin. Elle sera aussi dans le même studio depuis Grenoble avec Luc Gwiazinski et à Paris, Chagon Zales est photographe, bonsoir. Vous êtes photographe et autrice d'une série qui s'intitule Abandon, on en parlera avec vous tout à l'heure. Et Richard Memto, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, auteur de Sex Friends, comment bien rater sa vie amoureuse à l'ère numérique aux éditions Zone, donc qui dépendent des éditions de La Découverte. Si vous marchez dehors, à cette heure et en ce lieu, c'est que vous désirez quelque chose que vous n'avez pas. Et cette chose, moi, je peux vous la fournir. Non pas que j'ai deviné ce que vous pouvez désirer, ni que je sois pressé de le connaître, car le désir d'un acheteur est la plus mélancolique chose qui soit, qu'on contemple comme un petit secret qui ne demande qu'à être percé et qu'on prend son temps avant de percer, comme un cadeau que l'on reçoit emballé et dont on prend son temps à tirer la ficelle. Pour tous ceux qui aiment Bernard-Marie Coltès, ils auront et elles auront reconnu l'ouverture de « Dans la solitude des champs de coton ». C'est un dealer qui parle, mais c'est un dealer qui va parler avec son client supposé pendant toute cette rencontre qui dure le temps d'une magnifique pièce de théâtre, de la rencontre et de ce que l'on a à offrir ou à prendre à l'autre. Richard Memto, c'est une métaphore aussi de la rencontre, vous qui avez travaillé sur la rencontre sur Internet, mais qui vous intéressait justement à ces lieux de rencontre.
Alors c'est vrai qu'une des images qui revient souvent, c'est celle du marché de la drague. Mais en même temps, c'est une image un peu trompeuse. C'est-à-dire que c'est pas si simple que d'acheter un produit dans la mesure où l'autre a quelque chose à dire sur votre désir et il a aussi le sien à partager. Donc en fait, c'est des négociations qui parfois peuvent impliquer des choses beaucoup plus dramatiques comme des rejets, ce qu'on voit moins dans un hypermarché quand on va acheter sa tranche de jambon ou autre chose. Là, oui. On est vraiment dans une espèce de tension dramatique et éthique.
Mais en parlant de son texte, dans les années 80, Bernard-Marie Coltès disait que ce qu'il voulait mettre en avant, c'était le commerce, au sens à la fois du 18e siècle, mais le commerce en général, c'est-à-dire le commerce des corps, le commerce aussi de la rencontre, de la discussion, de la possibilité d'offrir quelque chose et de voir l'autre vous offrir autre chose, Richard Memto.
Alors, dans ce sens, oui, effectivement, il y a quelque chose de, qu'on retrouverait sur les applications de rencontre, mais là, c'est un commerce dont on ne connaît pas forcément les règles. C'est-à-dire que au fond, donc c'est bien comme dans la pièce, on discute aussi de ce qu'on veut. Et ce qu'on veut se dit au fur et à mesure en fonction de la personne avec qui on discute. Donc il y a évidemment des identités qui se construisent, parce que c'est en fait ça qu'on échange. C'est-à-dire des sortes de fiches, c'est pensé comme des espèces de profils. Et on échange des identités, mais il y a un jeu évidemment un petit peu stratégique sur les identités. Donc c'est de toute façon assez opaque.
Chag Gonzalez, dans votre travail de photographe qui s'intitule Abandon, vous avez travaillé sur des lieux de fête à Beyrouth, mais beaucoup à Paris, des lieux de rencontre justement qui sont des lieux de rencontres amoureuses parfois, de rencontres parfois peut-être aussi de deals d'autres matières que le sexe par exemple. Ces photographies qu'on peut voir d'ailleurs sur notre site, et on vous remercie de nous en avoir offertes quelques-unes pour pouvoir peupler la plage du temps du débat aujourd'hui, eh bien ces photographies disent quoi justement de la nature de la rencontre aujourd'hui telle que vous la voyez depuis votre œil de photographe?
Elle dit surtout qu'on est un petit peu perdu, surtout à Paris, qu'on est aussi très seul, C'est très très dur de trouver des relations qui durent.
Mais est-ce que d'ailleurs il y a besoin de trouver des relations qui durent? C'est une question que vous vous posez aussi, Richard Memento, dans votre livre, en l'occurrence Sex Friends, comment bien rater sa vie amoureuse à l'ère numérique.
Oui, bah, effectivement, moi je pense que les relations qui durent sont une des modalités parmi beaucoup d'autres formes de relations. Et c'est vrai que les applications d'encontre, en fait, servent autant à parfois rencontrer des personnes, donc pour des relations d'un soir, que pour parfois découvrir des villes, puisqu'elles sont géolocalisées, donc elles donnent accès finalement à une sorte de voyage interactif, quoi. À la fois dans le monde de la drague et en même temps dans une ville qu'on ne connaît pas encore.
Yael Amsalen Mingui, on a l'impression que c'est très éloigné ce sur quoi vous travaillez en tant que sociologue, et en particulier sociologue du monde rural. Vous êtes l'autrice d'un livre qui s'intitule, un travail qui s'intitule Les filles du coin, qui fait référence à un magnifique livre d'il y a une dizaine d'années de Nicolas Réal, qui avait travaillé, lui, sur les gars du coin et sur les sociabilités dans le monde rural. Vous avez travaillé sur les filles. Est-ce que, par exemple, ces applications de rencontres dont vient de parler Richard Memento sont si fréquemment utilisées auprès des enquêtés que vous avez en tant que sociologue?
Alors, moi, j'ai rencontré des jeunes femmes qui ont entre 15 et 25 ans essentiellement, et c'est vrai que les applications de rencontres ressortent beaucoup moins que dans d'autres enquêtes que j'ai pu mener, notamment parce que c'est sur des jeunes femmes qui viennent de milieux ruraux et qui habitent et qui sont issues de classes populaires. Et en fait, on voit bien que si les applications de rencontres sont peu utilisées, il y a un entre-soi culturel jeune qui, par contre, se passe en ligne, notamment via la culture geek et les jeux vidéo, qui peuvent aussi être des lieux de rencontres, mais ça sera moins souvent des applications de rencontres qui seront au cœur des rencontres affectives, amoureuses, relationnelles.
Et ainsi que Benoît Coquart, qu'on a reçu dans cette émission il y a quelques temps et qui évoque ces questions-là aussi dans son livre, eh bien, vous parlez de la société de l'interconnaissance, vous parlez aussi de ces soirées entre amis qui sont régulièrement organisées pour pouvoir justement se rencontrer, mais ça se passe au sein de la cellule familiale, ça se passe dans des maisons, ça ne se passe pas dans les lieux extérieurs. On voulait faire cette émission parce qu'on a noté la baisse considérable dans toute la France du nombre de boîtes de nuit, par exemple. On préfère désormais, parce que la boîte de nuit coûte cher aussi parfois, même si elle ne coûte pas cher pour les filles la plupart du temps, mais on préfère se rencontrer chez des amis, par exemple.
Alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on croise hein, dans les travaux de Benoît Coquart, dans l'ouvrage Ce qui reste, et puis dans l'enquête sur les filles du coin, sur l'éloignement des lieux de rencontre, et puis les déplacements des lieux de rencontre, puis la persistance des lieux de rencontre traditionnels comme les bals, les fêtes locales, les fêtes de village, qui restent des grands lieux de rencontre où les familles viennent aussi pouvoir donner leur avis sur qui est-ce qu'il faut fréquenter, qui est-ce qu'il ne faut pas fréquenter. Quand on dit que les jeunes femmes vont plus difficilement en boîte de nuit par rapport aux générations antérieures quand elles comparent par rapport à leur mère. Effectivement, elles nous parlent des boîtes de nuit où leurs parents se sont rencontrés, où leur mère pouvait sortir. Mais par contre, ces boîtes de nuit n'existent plus. Et en même temps, les jeunes femmes par rapport aux jeunes hommes sont dans des situations d'éloignement des mobilités individuelles. Elles n'ont pas de scooter ou de petite moto parce que ce sont des jeunes femmes. Et puis, elles sont issues de milieu populaire. Donc, la discothèque, même si c'est éventuellement gratuit pour les filles, il faut quand même consommer. Donc, ça implique aussi d'autres modes de préparation. Ça veut dire se retrouver entre copines, manger avant, boire des coups avant pour consommer le moins possible pendant la discothèque. Et quand on doit choisir entre se payer de l'essence pour aller en discothèque ou éventuellement devoir aller faire des courses et aller travailler, ben effectivement, on va moins souvent en discothèque. Et puis, il y a aussi le fait de beaucoup se rencontrer de copain en copain, d'ami en ami, de soirée en soirée, que ce soit chez les jeunes entre eux ou dans leur famille quand leurs familles ne sont pas forcément là, mais aussi dans des lieux abandonnés qui peuvent exister sur les différents territoires où on a pu enquêter.
Qu'est-ce que vous appelez les lieux abandonnés ?
Alors, les lieux abandonnés, c'est loin de l'urbex et de l'image binaire sociale qu'on pourrait en avoir aujourd'hui.
Ça n'est pas Nicolas Offenstadt décrivant l'urbex en RDA, c'est-à-dire l'exploration urbaine dans des anciennes usines de RDA, ça n'est pas ça.
Non, mais par contre, c'est la maison abandonnée que tout le monde connaît hein, dans les villages aux alentours, dans l'intercommunalité, et que sur laquelle les jeunes, sans fracturer rien du tout, passent des soirées avec des bougies, avec maintenant heureusement les téléphones et donc des enceintes portables qui leur permettent d'avoir de la musique un peu forte. Et puis chacun vient avec de quoi manger, de quoi boire et passer une bonne soirée. Ça peut être dans des blocos, parce qu'on a interrogé des jeunes femmes dans 4 territoires, dont un territoire breton où il y a des blocos sur site. Et donc les blocos sont très investis les week-ends par les jeunes, y compris les jeunes femmes. Et c'est là où aussi elles vont pouvoir rencontrer des jeunes hommes et il y a des blocos d'âge différent. alors c'est rigolo, ça fait des soirées très différentes, d'un blocos à un autre, et on passe pas d'un blocos à un autre n'importe comment.
Chac Gonzalez, vous opinez du chef quand vous entendez parler de ces lieux abandonnés, parce qu'il n'y a pas que en région, dans les territoires, comme on dit maintenant, en province, qu'il y a des lieux abandonnés. Il y en a aussi à Paris, en banlieue parisienne, ou peut-être même à Beyrouth, où vous avez aussi analysé les lieux de fête en tant que photographe.
Oui, ben, les lieux intramuros parisiens sont de plus en plus délaissés à la faveur des lieux justement autres qui sont autour de Paris et puis même parfois plus loin. Dans,
vous voulez dire en banlieue
dans la forêt de Fontainebleau, par exemple. Je suis allée déjà à des free parties, même enfin, voilà, dans la campagne alentour. Et puis même aussi dans des lieux dans le sud de la France, à l'est, enfin voilà. Les Parisiens recherchent de plus en plus ces fêtes plus libres, on va dire, qui sont moins chères aussi.
Et moins organisées qu'elles ne l'étaient auparavant dans les boîtes ou dans les endroits de rencontre.
Avec moins de contraintes, ouais.
Richard Memetot.
Oui, mais en fait, moi, je pensais aussi aux rencontres, évidemment, sexuelles qui peuvent avoir lieu sur ce qu'on appelle les coins de drague. Mmh. Quand on est gay, c'est toute une partie de la culture, bien quand sûr. Même, qui était peut-être aussi celle de Bernard-Marie Coltès. C'est-à-dire, ouais. Au fond, il y a des sortes de lieux qui sont des lieux un peu éclairés la nuit, ou alors, justement, sur des plages.
Chaque ville,
dans les blocos.
Chaque ville et chaque village, non pas chaque village, mais chaque bourg a ces lieux-là.
C'est ça. Mais effectivement, on retrouve d'ailleurs ces lieux qui étaient utilisés avant. C'est George Jansey, je crois, qui en parle dans le Gay New York, qui raconte aussi que les cinémas, par exemple, étaient aussi très utilisés. Comme on payait son ticket pas très cher, et puis tout le monde, y compris les couples évidemment hétérosexuels, pouvaient y aller et en fait rencontrer directement dans le cinéma. Donc c'est des lieux qui aussi ont une certaine poésie parce qu'ils sont entretenus sans qu'on sache réellement par qui. Ils sont un petit peu notoires, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas non plus que n'importe qui y rentre. Et ils constituent une sorte de petite communauté invisible au milieu d'une ville qui, par ailleurs, même si elle rend tout visible, est tellement anonyme qu'elle permet de se cacher.
Luc Zwierdinski, vous êtes donc en duplex depuis les studios de Grenoble de France Bleu Isère, juste à côté de Yael Amselem Mingui. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de la nuit, vous avez travaillé en tant que géographe sur la nuit, qui, dites-vous, en tant que géographe, était un lieu abandonné des géographes. Ils ne réfléchissaient pas à cette question de la nuit, et d'ailleurs de beaucoup de sciences humaines et de sciences sociales qui ne s'y intéressaient pas jusqu'à il y a quelques années, alors que c'est un moment effectivement de nos vies qui est très important. On ne fait pas que dormir la nuit, et surtout qu'il est de plus en plus un moment interpénétré par le jour, si je puis dire, parce que ce que vous racontez en tant que géographe, c'est que ces nuits bien deviennent de plus en plus habitées par le travail du jour, mais que les nuits aussi gagnent avec les afters, par exemple, sur la journée suivante.
Oui, on a un phénomène général, en fait, qui est celui de la colonisation de ce temps particulier de la nuit par les activités du jour. C'est une longue histoire, cette conquête de la nuit par les activités du jour, mais aujourd'hui, on est presque face à une logique de diurnisation. Donc on a une espèce d'espace un petit peu hybride, un petit peu particulier, où on a effectivement maintenant de la lumière, où on a de plus en plus d'activités, surtout dans les villes ou dans certaines périphéries de villes, et où il y a possiblement l'occasion de la rencontre et l'occasion plus largement de faire ville, puisque si on reprend une des définitions possibles de la ville, c'est le lieu de maximisation des interactions. Donc pas simplement pour le business, mais simplement pour la rencontre en face à face ou la coprésence. Et je pense qu'une des questions aujourd'hui, c'est où, quand et comment on fait société comme animaux politiques. Donc où, quand, comment on peut se rencontrer. Et les différents intervenants l'ont dit, on est dans des espaces, des temps et des mobilités de plus en plus éclatés. On habite le même territoire, le même appartement, la même organisation, entreprise, peu importe, sauf qu'on n'y est pas au même moment. Et donc ce temps de la soirée, par exemple un vendredi soir, comme aujourd'hui, peut être un des temps où on se retrouve, où on a la possibilité de la rencontre. Donc ça redonne aujourd'hui un rôle très particulier à la nuit. On voit qu'elle est conquise par des activités économiques, mais elle est aussi investie par les collectivités. Si la fête des Lumières marche aussi bien, c'est qu'il y a l'envie de la rencontre, alors plus largement que la rencontre de celle de la Saint-Valentin dont vous parlez, mais on voit une multitude d'événements qui se développent, et notamment en soirée, et jusque dans les milieux ruraux, On en parlait tout à l'heure. Par exemple, il y a des soirées volley-ball, il y a des matchs de football nocturne, il y a des courses à pied nocturnes. On a l'impression que le nocturne a pris une dimension particulière pour donner un côté festif et la possibilité d'une rencontre à des gens qui habitent en général des espèces d'espaces ou en tout cas plutôt des logiques de banlieue et de périphérie et que la nuit redonne du sens à tout ça.
Oui, après avoir cité Bernard-Marie Coltès, citons Georges Perec avec Espèces d'espace. Chagonzales, cette nuit qui gagne le jour, vous en avez fait vous en êtes le témoin d'une certaine façon avec vos photographies, puisque beaucoup de ces photographies ont été prises dans des lieux d'after, donc dans des lieux où on fait la fête bien après la fin de la nuit et plutôt en plein milieu du jour, effectivement, et où on se rencontre à ce moment-là.
Oui, mais j'affectionne particulièrement les afters, déjà parce que je peux faire des photos avec de la lumière du jour.
Oui.
Donc c'est bien. Enfin, en tout cas dans les endroits où il y a des fenêtres. Mais et puis ça m'est arrivé souvent de dormir la nuit et de prendre mon petit déjeuner et de partir en after directement. Il y a quelque chose que je trouve de vraiment particulier dans ces moments-là, qui est plus, les corps sont vraiment plus libérés parce qu'il y a toute la nuit qui a eu lieu.
Ils sont déjà des corps fatigués.
Oui, fatigués en même temps beaucoup plus énergiques qu'au début où tout le monde est un peu engourdi, un peu encore avec la journée qui pèse. Et oui, c'est ces moments-là qui sont les plus vrais au final.
Richard Memto.
Ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, notamment à cause des applications, on peut rentabiliser en quelque sorte les temps morts. Parce que finalement, dès qu'on s'assoit...
mais c'est vraiment une société du marché que vous nous décrivez. Pas le marché, mais...
C'est-à-dire qu'il s'agit simplement de combattre l'ennui, quoi. Il y a évidemment le risque de s'ennuyer quand on est dans le métro ou quand on est dans le train. Et ces moments, finalement, sont des moments où on se rend compte, mais alors de façon... où on discute, en tout cas, de façon très, très éphémère. Mais c'est quand même l'idée que on pourrait, à n'importe quel moment... rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas, le frôler. Il y avait des applications qui consistaient à noter qui vous aviez rencontré dans la journée par hasard. Moi, je ne cite pas les noms, mais...
On peut les citer.
C'était Appen à l'époque, ouais. Qui aussi essayait de produire une sorte de poésie de la rencontre urbaine. Il y avait un truc comme ça. Celui que vous n'aviez pas vu dans le train, mais qui finalement peut-être en fait pensait à vous et pouvait en fait vous envoyer un message. Alors je ne sais pas si vraiment c'est une vraie rentabilisation. Moi, c'est pour ça que je le dis avec des guillemets. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'on réussisse tout à fait à rencontrer si facilement. Mais simplement, on veut être disponible pour les autres et que les autres soient disponibles pour nous.
Je vous propose d'écouter un extrait d'un entretien qu'a donné la sociologue Marie Bergström, auteur des Nouvelles Lois de l'Amour. Je crois que vous l'aviez rencontrée sur notre antenne sur France Culture. Richard Memto, le sous-titre de son livre, c'est « Sexualité, couple et rencontre à l'heure du numérique », paru à La Découverte en 2019. C'était dans La Grande Table le 7 juin dernier.
Effectivement, les sites et les applications mettent au défi ces imaginaires qui sont, par exemple, cette idée forte que l'amour est aveugle, l'amour devrait être désintéressé, que la rencontre est fortuite. Donc la recherche active de partenaires est déjà quelque chose qui est considéré suspect. Je pense que s'il y a toujours cette appréhension envers ces services, c'est que ces imaginaires-là, ils ont vraiment une longue histoire. C'est un produit du système matrimonial, si vous voulez, ou de l'amour romantique qui émerge comme un code au 19e siècle, qui est du coup le fruit de notre manière d'envisager les relations intimes aujourd'hui est toujours très présent. Et ça explique aussi pourquoi les petites annonces, pourquoi les agences matrimoniales, pourquoi le Minitel n'ont jamais vraiment marché, justement parce que eux aussi, ils allaient à l'encontre de ces imaginaires amoureux. Donc quand les sites et les applications sont apparus, ils ont été l'objet des mêmes critiques que les agences matrimoniales s'entendent avant eux, avec cette idée que c'est une rationalisation inédite, que c'est le marché qui entre dans le domaine de l'amour et que ça, par définition, ça corrompt nos relations intimes. Donc, toujours une appréhension qui, de fait, s'explique par le fait que ces nouveaux services collent assez mal, non pas avec la pratique de l'amour, mais plutôt les représentations de l'amour, la manière dont se raconte la vie amoureuse.
C'était la sociologue Marie Bergström interrogée sur France Culture dans la Grande Table le 7 juin dernier à propos de son livre Les Nouvelles Lois de l'Amour. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit, Yael Amselem Mingui, puisque elle insiste beaucoup sur la tension entre des imaginaires qui sont parfois des imaginaires très anciens, qui nous ont été racontés par les romans du 19e siècle, par exemple Madame Bovary ou tout un tas de romans du même type, de l'amour romantique, du sacrifice amoureux, etc. Et la réalité, justement, de ces rencontres d'aujourd'hui, en particulier par l'intermédiaire des applications de rencontres.
Alors, sur l'intermédiaire des applications de rencontres, et puis plus largement sur les enjeux autour de connaître ou pas connaître et être connu ou pas être connu par ses partenaires, il y a un enjeu très fort en milieu rural, c'est-à-dire que le poids de l'interconnaissance entre les milieux sociaux et entre les familles va induire certaines relations et va aussi exclure la possibilité de se mettre en couple ou au moins de rencontrer de manière légitime et autorisée et reconnue la rencontre avec d'autres partenaires. Et on voit bien que ce qui se passe, c'est qu'il y a tout un enjeu sur le fait de maintenir sa place et maintenir son rôle en tant que jeune femme dans l'espace local rural populaire, mais aussi maintenir la place et le rôle de sa famille. Et quand on est la fille de Monsieur Machin, que tout le monde connaît bien, puisque Monsieur Machin, il est président du club de foot. Et puis, son fils, il est entraîneur du club de foot. Et puis, donc, ils ont, Et puis, la femme, très investie dans l'activité culturelle, dans l'association culturelle locale. Alors, c'est très genré, ce que je vous raconte, mais en même temps, c'est beaucoup des récits qu'on a eus. La fille de Monsieur Machin, elle peut difficilement, elle, être autrement que de maintenir la place et le rôle de sa famille. Ouais. Et donc, elle va aller plus loin pour se lâcher, comme on a pu l'avoir dans plusieurs entretiens. Et donc, elle va chercher à aller soit dans des applications plus rarement, et plus souvent, elle va chercher à aller dans des boîtes de nuit, dans les métropoles, ou dans la métropole la plus proche, la plus accessible.
Où elle sera inconnue.
Avec l'espoir de nos rencontres. Voilà, dans l'espoir d'être inconnue. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas toute seule à chercher à être inconnue. Et puis, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui... Parce qu'en fait, la métropole, elle est très loin. Mais l'accès des milieux populaires à certaines boîtes de nuit, il est commun. C'est-à-dire que les milieux sociaux ne sont pas tous les mêmes dans toutes les boîtes de nuit. Il y a vraiment un enjeu. La nuit, elle est clivée socialement quand même.
D'accord. C'est d'ailleurs ce que on a remarqué, par exemple, pour la question des rencontres homosexuelles. Effectivement, c'était cet éloignement nécessaire avant la création des applications de rencontres, Richard Mento, qui faisait qu'effectivement, on ne voulait pas, pour des raisons d'interconnaissance comme celles qui viennent d'être évoquées par Yael Amselem Mingui, se faire reconnaître. Donc, on allait dans une capitale ou plus loin, on allait dans des villes plus éloignées pour ne pas se faire remarquer, justement.
Oui, alors c'est vrai que si on fait la généalogie des applications de rencontres, elles commencent par une sorte d'extension de ce qu'on appelait au début le guédard, c'est-à-dire la faculté de se rencontrer dans une ville.
Le guédard, il faut expliquer.
C'est le radar gay. Ouais, c'est quand même assez. Mais effectivement, c'est un mot d'ailleurs qui s'emploie peut-être un petit peu moins. Mais donc, c'est au départ une application qu'on pense vraiment limitée à une communauté, quoi, la communauté homosexuelle, qui en aurait plus besoin. Et puis très vite, on se rend compte que en fait, on peut greffer d'autres applications sur d'autres formes de communautés, notamment Tinder, qui commence en fait au départ par les rencontres dans les campus, puisque là, c'est une communauté assez légitime pour se rencontrer. Mais il y a une tension après, puisque ces applications peuvent accueillir tout le monde. Et donc là, il y a le jeu dont on sent bien qu'il y a deux formes d'éthique différentes entre les participants à cette rencontre. Le jeu entre ceux qui effectivement joue l'honnêteté, s'assume, se montre, etc. Et tous ceux qui préfèrent rester discrets. Et là, il y a toute une poésie du type un petit peu hypocrite, un petit peu discret, qui ne veut pas être connu par les interconnaissances.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Un temps du débat qui se demande en cette Saint-Valentin où on peut encore se rencontrer, soit sur les sites de rencontres, soit effectivement dans des lieux physiques qui tendent à devenir de moins en moins nombreux. Luc Diadinski, vous avez travaillé en tant que géographe sur la nuit. Est-ce que justement cette question des rencontres virtuelles est intervenue dans votre travail de géographe, dans votre livre La nuit, dernière frontière de la ville, ou encore La ville 24 heures sur 24?
Non, j'ai plutôt travaillé sur la question de la rencontre face à face.
Face à face, physique.
C'est-à-dire, oui, c'est la rencontre physique. J'ai plutôt réfléchi à cette question-là et voir l'évolution un petit peu de la nuit avec la disparition des gros paquebots de la nuit, les grosses discothèques dans les centres, l'apparition et le développement des bars d'ambiance et le fait que finalement aujourd'hui, puisque vous avez parlé d'une dimension économique, à un moment donné, c'est apparu dans l'échange, il y a autre chose qui se joue tout. Premier point, c'est la question que c'est la ville elle-même dans sa mise en lumière, dans ses parcours. La question des pratiques de la ville la nuit, c'est aujourd'hui des pratiques mobiles et nomades. Donc on va d'un endroit à l'autre. Il y a deux choses qui ont transformé, me semble-t-il, la nuit des dernières années. C'est un, le téléphone portable. Ça, c'est une invention. Il y a 30 ans, si on avait pu l'avoir, c'était assez génial. C'est-à-dire qu'au dernier moment, on peut décider de l'endroit où on va et qui clignote. Et deuxième chose, c'est l'interdiction des cigarettes à l'intérieur des bâtiments. Donc, on ressort et donc, on a une population qui réinvestit l'espace public avec un certain nombre de problèmes et de conflits. Mais c'est aujourd'hui, sur les places, on voit les difficultés qu'ont les villes à gérer ces problèmes de ces conflits entre villes qui essayent de dormir et villes qui s'amusent ou qui essayent de se rencontrer, donc des villes à plusieurs temps. Et donc là, ça, c'est un élément important. Et puis un autre point sur lequel je voulais revenir par rapport aux interventions précédentes, c'est que j'ai beaucoup cru, d'abord, que la nuit, quand on interroge les personnes sur la nuit, et donc ça pose la question de la rencontre, surtout selon les âges, c'est très clivant. D'un côté, on a peur de la nuit, et d'autres ont dit « moi je suis libre, je fais ce que je veux ». Et j'ai regardé d'un point de vue spatial, d'un point de vue statistique, si c'était plus dangereux, et surtout si on était libre dans la ville la nuit, et ça renvoie évidemment au code, à la rencontre. Un, on n'est pas libre, puisque d'abord ça a un coût la nuit, notamment en hiver, quand les espaces publics, entre guillemets, sont fermés. Deux, on se fait beau, comme on s'endimanchait il y a quelques années encore, on se fait beau pour aller dans la nuit. Dans la nuit, c'est des codes aussi, et il y a très peu finalement de lieux de mélange. En fait, on va sur des endroits codés qu'on a choisis à l'avance. Donc ça, je pense que c'est important, et la question de classe sociale, de code culturel, elle est très importante. Souvenez-vous aussi des physionomistes à l'entrée des boîtes de nuit et du filtrage qui était fait avec celles et ceux qui venaient notamment des périphéries. Donc la question de la nuit qui est développée par les poètes, qui serait une espèce de lieu où effectivement la vue étant le sens premier chez nous, la vue ayant baissé naturellement, on serait dans des proximités et un certain nombre de contacts possibles. Encore faut-il qu'il y ait l'ouverture de lieux qui soient vraiment des lieux de mélange. Et finalement, il y en a assez peu dans les lieux institutionnels.
Mais, et si je peux juste réagir, par rapport aux boîtes de nuit et aux physionomistes, excusez-moi, mais juste pensais, c'est vrai que les jeunes femmes de milieu populaire, de milieu rural, elles savent très bien qu'elles sont regardées, qu'elles sont habillées de manière très différente des jeunes femmes qui sont de milieu urbain. Elles savent qu'il y a un gap qui les sépare, même si elles essaient d'adhérer au code de la jeunesse urbaine. Elles pensent que à travers leur manière d'être, leur manière de parler, leur manière, leur voiture et puis leurs copines, tout le monde saura qu'elles viennent de milieu populaire et de l'espace rural. Et donc, elles ne pourront pas accéder à n'importe quelle boîte de nuit, à n'importe quel bar, à n'importe quel lieu de sortie, en plus de ceux dont elles vont se sentir elles-mêmes non légitimes pour les fréquenter.
Chat Gonzalez, dans les lieux que vous avez fréquentés pour votre travail de photographe, que ce soit d'ailleurs, j'ai cru comprendre, vous étiez allé aussi à Kiev, en Ukraine, vous êtes allé aussi à Beyrouth, je l'ai déjà dit, ou peut-être même à Berlin, et à Paris, évidemment. Est-ce que justement, cette question qui était posée souvent par les gens qui s'intéressaient à la question de la rencontre, l'homogamie, c'est-à-dire on est du même milieu, on est de la même classe sociale, on est du même village ou de la même ville, tout ça, vous trouvez que ces lieux sont des lieux justement d'une rencontre qui fait casser ces codes-là, ou est-ce que ça fait persister les mêmes codes que ceux qui existaient auparavant, selon vous ?
Ce que je remarque, c'est que dans les lieux, on va dire mainstream, donc les clubs parisiens, il y a quand même pas mal de mixité. C'est en particulier en périphérie, dans les fêtes. Dans les fêtes qui s'organisent dans les bars qui ouvrent la nuit et qui accueillent donc des soirées techno, etc. Là, il y a par exemple à Montreuil, il y a vraiment tous les gens du quartier plus ceux qui viennent de Paris qui se mélangent. Après, c'est vrai qu'il y a un phénomène, enfin oui, il y a beaucoup de fêtes d'organisateurs de fêtes qui créent une sorte de famille. Avec où on retrouve toujours un peu les mêmes personnes qui forment un espèce de groupe un peu comme ça étendu,
homogène et homogène.
Alors homogène plus ou moins, mais
socialement. Physiquement.
Ouais. Bon, il y a quand même un bon panel, mais c'est juste que c'est pas forcément sur des critères physiques, sociaux, mais c'est plus le fait d'être dans la même énergie entre guillemets, les mêmes goûts musicaux et de se retrouver comme ça d'un événement à l'autre et de danser ensemble et enfin voilà. C'est des nouvelles familles en fait.
Et est-ce que vous avez pu voir, par exemple, parce qu'on connaît Berlin comme capitale de ces fêtes, de rencontres peut-être plus exacerbées que celles qu'on connaît à Paris, etc. Vous l'avez noté ou
j'ai pas. Alors non, moi je suis très peu allée à Berlin. J'y suis allée il y a longtemps, mais je suis censée y retourner. En tout cas,
êtes allée à Kiev, par exemple.
Oui, je suis allée à Kiev. À Kiev, c'est très encore. Destiné à une classe sociale assez élevée, donc voilà, beaucoup de m'as-tu vu. Mais à Paris, je trouve que justement, il y a quelque chose qui se rapproche beaucoup de Berlin, dans la liberté en tout cas, et la mixité qu'il peut y avoir dans ces fêtes.
Richard Memto, en ayant travaillé, comme vous l'avez fait, sur les sites de rencontres pour votre livre Sex Friends, Comment bien rater sa vie amoureuse à l'ère numérique chez vos éditions Zone, on a l'impression effectivement que ce que vous nous racontez, c'est que cette question de la rencontre physique et de la rencontre sur le net sont progressivement liées par une sorte de ping-pong permanent, que par ailleurs, on va toujours chercher mieux, on va chercher plus, on va aller voir peut-être plus de rencontres si c'est possible, et que donc au bout du compte, il n'y a pas de fracture, de rupture entre justement la rencontre virtuelle et la rencontre in the real life, comme on dit, je crois, c'est comme ça, in real life.
Ben oui, IRL. non, il y a quelque chose quand même d'assez amusant sur les sites, c'est qu'on pense, je crois, pouvoir comme tirer un petit peu le rideau du décorum social et jeter un œil sur ces applications qui sont souvent des espèces donc de mosaïques de visages, hein. Ouais. Et on pense voir ou accéder à tous ceux qui sont disponibles, alors disponibles sexuellement, sentimentalement, enfin ça se négocie, mais comme si au fond on se rendait compte que on est tous effectivement un petit peu mus par la même pulsion, quoi. Et moi, ça me fait souvent penser.
Ce que vous appelez à un certain moment dans votre livre l'opportunisme sexuel.
Ouais, c'est ça. Mais ça me fait vraiment penser à Ice White Shot, en fait, le moment où le personnage qui est marié.
Le film de Kubrick, ouais.
Exactement, et qui est en fait l'adaptation de Schnitzler, ouais. Découvre qu'il y a une sorte de monde souterrain où tout le monde se rencontre complètement orgiaque et un petit peu indistinct. Et finalement, il y a ce fantasme, encore une fois, de voir ce que les gens sont vraiment. Mais au fond, dès qu'on rentre un petit peu dans le jeu de ping-pong, on se rend compte que ce qui nous oppose, c'est pas tellement des... Enfin, il y a évidemment tout le jeu des codes sociaux qui sont très forts, notamment, il faut très bien utiliser l'orthographe.
Ça, vous le dites, c'est formidable. Vous dites l'importance exagérée de l'orthographe est un effet de l'interface. Dans la fable de l'amour romantique, celui qui arrive au coin de la rue est par hasard. Personne ne commence la conversation par une dictée suivie d'une correction de copie. Et pourtant, effectivement, ça fait partie des sites de rencontre.
Oui, c'est ça. Mais du coup, il y a d'autres questions qui se posent. Moi, c'est vraiment ce qui m'a intéressé, c'est-à-dire d'un point de vue philosophique. C'est que on se pose d'autres questions qu'on s'est jamais posées auparavant.
Lesquelles ?
Style, est-ce qu'on a un type de personne ?
Oui.
Est-ce que nos pulsions qui semblent totalement irrationnelles et chaotiques en fait sont pas très ordonnées et guidées vers des reproductions en fait de schémas qu'on peut connaître assez vite ?
Est-ce que
des
l'antiracisme que l'on pratique en parole, est-ce qu'on la pratique sur les sites de rencontre ?
Oui. Alors voilà, la grossophobie, le racisme, le sexisme, c'est vrai qu'ils reviennent très vite. Et pour le coup, encore une fois, on est obligé de se poser la question donc de la fétichisation de l'autre, sachant qu'on ne voit de lui qu'une image. Donc il est très facile de fantasmer une image et qu'on aimerait le réduire à cette image. Mais encore une fois, ça va tout de suite de pair avec la possibilité d'un rejet qu'on expérimente assez facilement sur les applications de rencontres et toute forme de rejet, des insultes, etc. Donc l'autre ne se laisse pas si facilement attraper.
Yael Amselem Mengi qui avait travaillé donc sur les filles du coin, sur la question de la jeunesse en milieu rural quand on est une fille ou une jeune femme. Est-ce que ce qui préoccupe beaucoup ces temps-ci nos hommes et nos femmes politiques, à savoir la disparition des lieux de sociabilité ruraux, les lieux dans lesquels on pouvait se rencontrer auparavant, les cafés, on l'a dit tout à l'heure, les boîtes de nuit, est-ce que ces questions-là sont des questions que vous avez rencontrées chez vos enquêtés quand vous étiez sur vos terrains ?
Oui, alors c'est vrai qu'elle pointe. Alors elle pointe pas le fait qu'il n'y ait pas de café, parce que de toute façon, leur mère n'allait déjà pas au café. Par contre, le fait qu'aujourd'hui, et c'est ce que montre très bien Benoît Coquart et que montrait déjà Nicolas Rénaï il y a 20 ans, c'est qu'aujourd'hui, les hommes investissent l'espace domestique au même titre que les femmes. Sauf que les femmes, c'était leur espace, l'espace domestique, y compris les jeunes femmes. Et donc, bah, il y a vraiment un enjeu aujourd'hui avec une absence de lieu de sortie, mais en même temps, une difficulté à avoir une légitimité pour les femmes à se déplacer et à investir les espaces publics ou les espaces même avec des consommations, mais sans remettre en compte leur réputation, sans remettre en compte la réputation de leur famille, et puis pour avoir les moyens d'investir ces espaces publics. Et donc il y a une tension très forte entre l'espace domestique duquel bah, finalement elle voit arriver les hommes qui sont dans des contrats précaires, qui sont dans des contrats de travail fractionnés avec bah, moins de travail ouvrier malgré tout, qui vont faire qu'ils vont investir l'espace domestique très lourdement dans la journée et dans la soirée. Et donc, elles ont moins d'espace, on va dire, de sociabilité féminine qu'elles pouvaient avoir auparavant. Et donc, il y a bien une tension. Et c'est bien ce qu'elles regrettent, tout en n'ayant pas vécu ce qu'elles auraient pu. Enfin, voilà, elles comparent quelque chose qu'elles n'ont pas vécu, mais en disant, on n'a pas le choix. Il faut faire avec, on n'a pas le choix. C'est deux phrases qui reviennent tout le temps dans les entretiens.
Et ça, effectivement, c'est très éloigné de ce que vous pouvez noter pour une ville comme Paris et sa banlieue. On a le choix, Chat Gonzalez. On a beaucoup plus le choix.
Oui, on a énormément de choix. Même, c'est vrai qu'il y a des clubs qui ferment, mais il y a toujours des nouveaux collectifs qui apparaissent et qui organisent des fêtes dans des lieux autres. Et après, sur le thème de la réputation, ça existe quand même, même si on est beaucoup à Paris.
Beaucoup à fréquenter les mêmes lieux aussi, ça peut
voilà,
arriver.
Voilà, c'est ça. Et puis même dans ce phénomène de famille dont j'ai parlé tout à l'heure, voilà, ça crée aussi parfois des situations qui sont proches de celles qu'on peut trouver dans les villages, j'imagine.
Et pour votre part, Luc Vianinski, pardon, ça vous arrive aussi de réfléchir à ces questions de plus de choix, moins de choix, justement, dans ces nuits qui s'étirent au point de devenir des jours?
Bah, plus de choix, oui, on voit que c'est une question aujourd'hui qui est posée notamment par par le monde associatif, par le monde culturel, par les collectivités. Mais la question que me semble-t-il qui est très importante, on est passé un peu vite, c'est la question de l'accès des femmes à la nuit. Plus on avance dans la nuit, moins on a de femmes dans l'espace public. Donc c'est à la fois une question culturelle intériorisée, mais c'est aussi peut-être un aménagement, une organisation de l'espace, un accès et une espèce la question du coût aussi qui est importante. Donc ça c'est un point qui me semble important. Et puis je voudrais retourner une proposition que m'avait fait un jour un architecte, un ami architecte, qui m'avait dit donne-moi un jeune couple. Laisse-moi construire leur maison et dans 6 mois, ils auront divorcé. Donc je pense que la question qui nous est posée, nous qui sommes du côté de l'espace et de l'aménagement, il s'appelait Bernard Aguinat, il s'appelle toujours, il se reconnaîtra. Et je lui avais dit, mais non, on va retourner les choses. C'est donne-moi une population et puis faisons en sorte qu'elle se rencontre, puisque tu as le génie de l'organisation des choses. Donc je pense que ce qu'on a pensé de la ville, par exemple, comme autour de la charte d'Athènes et qui a donné de la séparation d'espace, une fonction, un espace, la question de la mixité, qu'elle soit spatiale, ou temporel, c'est-à-dire dans un même lieu, il y a plusieurs activités au cours de la journée, de la soirée et autres, et l'obligation d'un frottement, parce que la ville, c'est le lieu du frottement, où il y a le bruit, où il y a le contact, où il y a l'échange, ça devrait être une clé d'entrée qui nous permettrait de réfléchir à la fois au droit à la ville, et au droit à la nuit, et au droit à la rencontre,
pour tous.
Oui, si on crève de quelque chose, c'est justement c'est l'absence de rencontre. Et on le voit moi par un phénomène qui est pas spécialement nocturne. Oui. Mais regardez ce qui s'est joué avec les nuits debout et regardez ce qui s'est joué aussi avec les gilets jaunes.
Oui, très bien. Merci beaucoup Luc Vianinski. Merci à vous Yael Amselem Mingui. Je rappelle que vous avez travaillé sur les filles du coin pour votre part. Luc Vianinski, vous avez écrit La nuit, dernière frontière de la ville et la ville 24 heures sur 24. Merci beaucoup et bravo pour votre travail Chat Gonzalez, photographe et autrice de la série Abandon, que je vous engage à regarder. Et puis Richard Bemto, vous êtes auteur de Sex Friends, comment bien rater sa vie amoureuse à l'ère numérique chez Zone. On peut noter aussi qu'en ce jour de la Saint-Valentin, eh bien France Culture a mis en ligne La Clinique de l'amour de Delphine Saltel et de Céline Lafont, une série de 5 émissions sur la façon dont des couples veulent réparer leur amour. Et puis Pauline Potier a écrit pour le site de France Culture Le cœur, organe de l'amour.
C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Hugo Boursier, Fanny Richer, Rémi Baille, Manon Prisset, ainsi que Théo Gomard à la technique et Assia Ralide à la réalisation.
C'est connu un matin, station 4 septembre, aucun idée le lendemain, pour aller boire un café ensemble.
On m'en a fait du chemin, du moins il me semble, depuis le premier verre de vin, au dernier baiser sans la langue.
On a connu les arrière-cours, les frimas de décembre, les ingénieurs qui...
Et voilà, on termine sur Vanessa Paradis et Benjamin Biolay, la rencontre, effectivement, station 4-7.
Ouvert.
Ouais.
J'aurais pu chanter.
Voilà. Arnaud Laporte dans...
Il y a que nous qui en avons profité dans le studio.
Mais
oui,
mais ça sera pour une autre fois. Mais on se rencontrera en dehors de la radio pour pouvoir chanter, justement.
Non, à l'antenne.
Et pour votre part, dans 3 minutes.
Oui.
Allez.
On va parler de cinéma.
Voilà.
Paf. Je vais pas faire plus court. Lundi. Tendu débat.
Lundi, tendu débat, la radicalisation islamiste. Comment analyse-t-on cette radicalisation aujourd'hui par rapport à quelques années auparavant?
Et pendant ce temps, Stéphane Jeunesse attend parce qu'il est 19h largement passé. C'est le rappel des titres de l'actualité.